Le journal est présenté ce soir par Cécilia Arbona. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir. Elle était la captive du Sahel depuis plus de 4 ans, otage des djihadistes au Mali. Sophie Pétronin, 75 ans, a posé le pied sur le sol français en début d'après-midi, accueillie à sa descente d'avion par le président de la République Emmanuel Macron. Aucune déclaration à la presse, ni d'elle, ni de lui. Un silence que nous tenterons de décoder. Quand le prix Nobel de la paix récompense le dévouement et le secours face à la famine, c'est le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, qui est honorée cette année. En pleine pandémie, l'Académie norvégienne récompense des travailleurs de l'ombre. Le tribunal judiciaire de Paris coupe court aux préparatifs d'une union économique qui fait polémique en France. La justice ordonne la suspension de l'opération d'acquisition par le géant de l'eau et des déchets Veolia des actions de son concurrent Suez. Et puis, état d'urgence sanitaire décrété dans la région de Madrid, en Espagne, face à la fièvre de nouvelles contaminations du coronavirus. Les autorités insistent et décident le bouclage partiel de la capitale, un bouclage qui avait été annulé hier par la justice. Enfin, nous irons aussi dans l'enquête du vendredi, au bord d'un bassin qui intrigue la justice. Gros plan sur le club de natation de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, avec une enquête Sylvain Tronchet de la cellule investigative de Radio France. Bienvenue chez vous. Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin, chère Sophie. C'est par ces mots très gentils, rédigés sur son compte Twitter, qu'Emmanuel Macron a salué l'arrivée en France de l'ex-otage Sophie Pétronin. Cette humanitaire de 75 ans a été retenue pendant 4 ans au Mali par des djihadistes présumés qui ont relâché également un prêtre, un jeune Italien, ainsi que l'homme politique malien Soumaïla Cissé. Bonsoir Christian Chesnais.
Bonsoir.
Alors, on a lu le tweet de Emmanuel Macron qui est presque adorable avec Sophie Pétronin qui l'appelle ma chère. Il n'y a pas eu de déclaration ni de l'un ni de l'autre, des silences et puis aucune déclaration qui contraste en fait avec les récits volubiles hier soir de l'ex-otage.
Oui, Sophie Pétronin hier soir avait envie de parler de ses penchés. En quelques heures, elle est passée du statut d'otage à celui de femme libre. Dès sa libération, elle s'est montrée prolixe. Elle a dit ne pas éprouver de colère. Le temps lui a paru un peu long, mais j'ai transformé la détention en retraite spirituelle, a-t-elle expliqué à nos confrères de RFI, ajoutant « J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait, je n'ai pas résisté, je me suis accroché, j'ai tenu et j'ai beaucoup prié ». Évoquant ses conditions de détention, elle a indiqué qu'elle pouvait écouter la radio et que ses geôliers lui faisaient passer des messages ou des vidéos, comme l'une dans laquelle son fils lui disait « Tiens bon. Quant à ces ravisseurs du groupe du soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, Sophie Pétronin ne les qualifie pas de djihadistes, mais de membres de l'opposition armée au régime de Bamako.
Alors, comme à chaque fois en pareille libération, on s'interroge sur le prix à payer. Vous restez avec moi, Christian Chesnais. On va d'abord écouter Marine Le Pen, qui est la première voix politique à se poser publiquement la question. La présidente du Rassemblement National, on l'écoute et on revient vers vous.
Bien sûr, je me réjouis quand une Française qui a été enlevée et qui est restée, je crois, en détention près de 4 ans, est libérée. Mais je pense que le gouvernement se doit peut-être d'informer au moins la représentation nationale des conditions de cette libération. Il est sûr que les échos que nous avons eus, qui évoqueraient non pas quelques dizaines, mais semble-t-il même quelques centaines d'islamistes qui auraient été libérés en contrepartie, dont des djihadistes, n'est pas évidemment pour nous rassurer quand on est attaché à la sécurité de notre pays. Donc je pense que le gouvernement ou même le président de la République s'honorerait à informer les présidents de parti et les présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat des conditions qui ont présidé à cette libération.
Marine Le Pen avec Antoine Maret. Alors Christian Chesnais, avez-vous des éléments de réponse ?
Écoutez, vous savez, toute libération d'otages par la négociation est par définition le résultat d'un accord avec les ravisseurs. Visiblement, Sophie Pétronin, les deux ressortissants italiens et le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, ont bien été échangés contre des dizaines de djihadistes dont le nom et le profil n'ont pas été divulgués. On ne peut pas non plus écarter le paiement d'une rançon aux ravisseurs. En tout cas, ces libérations restent par nature opaque, compliquée, tant les acteurs locaux et internationaux sont nombreux à intervenir dans le dossier. Il y a surtout le contexte de l'opération Barkhane qui vise à lutter contre les groupes djihadistes et qui mobilise plus de 5000 soldats français dans le désert. Même si Emmanuel Macron est resté silencieux à Villacoublay, il a redit sur Twitter que le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuivait.
Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France. Quand la justice se mêle d'une annonce d'un mariage économique qui paraît compliqué, en tout cas qui sème la zizanie en France, le tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé par les comités sociaux et économiques du groupe Suez, a ordonné aujourd'hui la suspension de l'opération résultant de l'offre d'acquisition par Veolia des actions Suez détenues par Engie. À ce stade, qu'est-ce que cette décision implique, Anne-Laure Jumet ?
Eh bien, l'opération est gelée tant que les représentants du personnel de Suez n'ont pas été informés et consultés. Selon les avocats des syndicats, Veolia va devoir à présent transmettre tous les éléments dont il dispose à la direction de Suez, qui elle seule a le pouvoir de convoquer les CSE, les comités sociaux et économiques. Car jusque-là, les syndicats n'étaient informés des éléments du dossier que dans la presse. C'est donc au moins 2 mois de gagné, se félicite Jérémy Chauveau, membre de la coordination CFDT du groupe Suez.
On a la moitié de la première mi-temps. Il va nous rester du temps. Les 2 mois de gagné aujourd'hui, c'est 2 mois de bien. Voilà, ça va nous permettre de nous organiser encore mieux, d'être encore meilleurs, de pouvoir communiquer, d'alerter tout le monde. Et au final, l'OPA ne se fera pas. Nous, enfin, on en a la certitude, on fera tout pour. On peut nous taxer de naïfs, de doux rêveurs, mais en tout cas, on fera tout pour et on ne lâchera pas. Alors ça, c'est clair.
Car l'intersyndicale de Suez fait feu de tout bois. Elle a aussi fait un signalement au parquet national financier et annonce des mobilisations beaucoup moins pacifiques que les précédentes. De son côté, Veolia est en train d'étudier cette décision de justice, mais fait déjà savoir qu'elle ne remet pas en cause l'opération.
Et à la mi-journée, l'ancien ministre socialiste de l'économie, Arnaud Montebourg, avait estimé que le rachat de Suez par Veolia était, je cite, « une affaire extrêmement grave ». Une vente truquée impliquant, selon lui, une collusion au sommet de l'État. Jean Castex poursuit ses déplacements en région en appui des forces de l'ordre. Après Dijon et Nice, théâtre de troubles durant l'été, le Premier ministre était aujourd'hui à Toulouse. Il a promis le renfort de 111 policiers nationaux d'ici la fin 2021. Le chef du gouvernement dans le sud-ouest, le ministre de la Santé dans l'est, Olivier Véran, était dans le territoire de Belfort et il s'est engagé à débloquer 50 millions d'euros supplémentaires pour l'ouverture de 4000 lits à la demande dans les hôpitaux français et ce, dès le mois de décembre. Alors, est-ce que cette enveloppe va apporter un peu de baume au cœur au personnel soignant ? Sarah Dess a posé la question à Aglaven Vega. Elle est secrétaire générale de la CGT à l'hôpital Cochin.
Cette somme est largement insuffisante quand on voit le coût d'une journée d'hospitalisation en réanimation et ça ne recouvre absolument pas les besoins en personnel qui, je le répète, sont déjà constants et hors Covid, avec en plus des difficultés de recrutement parce que un hôpital avec des services en souffrance ne recrutera pas des professionnels qui préféreront aller dans des services où ils ne seront pas obligés de faire des heures supplémentaires sans limite et de renoncer à des vacances et à des repos. Actuellement, à l'hôpital Cochin, nous avons des services qui ont fait des pétitions pour dénoncer le manque d'effectifs et la surcharge de travail, alors que nous ne sommes pas rentrés encore dans la deuxième vague Covid.
Aglaven Vega de la CGT de l'hôpital de Cochin, qui appelle comme d'autres syndicats hospitaliers et collectifs de soignants à une nouvelle journée de mobilisation et de grève nationale. Ce sera le 15 octobre prochain pour réclamer des embauches massives immédiates et une revalorisation significative des salaires. Je vous rappelle que 4 villes de l'Est et du Nord, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Lille, passeront dès demain matin en zone d'alerte maximale pour le Covid-19, synonyme de nouvelles restrictions, comme c'est déjà le cas à Paris, sur la métropole d'Aix-Marseille et également sur l'île de la Guadeloupe. On part en Espagne, Madrid et 8 villes de son agglomération sont placé ce soir en état d'urgence par le gouvernement de Pedro Sanchez. La décision a été prise dans le milieu de la journée. Retour donc des restrictions pour les habitants de la région d'Espagne la plus touchée par l'épidémie. À Madrid, c'est une correspondance de Pierre Chaperon.
Le gouvernement met fin à la confusion. Alors que la justice avait annulé hier le confinement périmétrique de Madrid, l'exécutif espagnol a décidé de promulguer l'état d'urgence dans la capitale et 8 villes aux alentours. Un dispositif rendu possible par la Constitution et applicable pendant 15 jours. Au-delà, ce sera au Parlement de décider ou non de reconduire le dispositif. Concrètement, il est impossible de sortir ou rentrer dans les villes de la région, sauf en cas de force majeure, pour aller travailler, aller à l'école ou venir en aide aux personnes âgées et dépendantes. Interdiction des réunions de plus de 6 personnes, capacité d'accueil des commerces limitée à 50% et qui doivent fermer à 22h, alors que les bars et restaurants pourront tirer le rideau à 23h. Cet état d'urgence met également fin aux bisbilles entre la région et le gouvernement. Ce dernier reprochait à l'autorité régionale de ne pas en faire assez, alors que le taux de contamination dépasse les 650 cas pour 100 000 habitants. Une région qui voulait à tout prix éviter cette situation. Ainsi, si la bataille juridique est terminée, les joutes politiques, elles, devraient continuer entre les deux institutions.
85 ans après sa création, l'Organisation des Nations Unies est honorée par le prix Nobel de la paix. C'est la 12e fois que l'ONU est distinguée à travers une personnalité ou une institution. Et cette année, c'est le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, qui a été choisi. Dans cette terrible année 2020 de pandémie, où nous sommes tous à la merci d'un virus invisible qui frappe à la fois les grandes puissances et les pays en voie de développement, et bien ce choix du prix Nobel de la paix est plus politique qu'il n'y paraît. En tout cas, il a laissé sans voix son représentant. Le récit à Genève de Jérémy Lange.
I've just learned that the Nobel Peace Prize has been awarded to the World Food Programme.
L'annonce est intervenue en pleine conférence de presse du PAM. Passé le moment de surprise, son porte-parole, Thomson Fieri, s'est dit très humble devant cette distinction. Le prix Nobel pourrait aider le Programme Alimentaire Mondial à sécuriser son budget au moment où le nombre de personnes qui souffrent de la faim repart à la hausse à cause de la pandémie.
WFP is 100% voluntarily funded.
Le PAM est entièrement financé par les donations. Les donateurs ont été très généreux en 2020. Nous avons même atteint un record avec 8 milliards de dollars de dons. Le problème, c'est que ce budget a été bouclé avant la pandémie. Nous appelons bien sûr ceux qui nous financent à continuer à le faire, à accroître leurs efforts même. Mais on sait aussi qu'ils subissent des pressions financières dans leur pays à cause de la pandémie.
Le choix de l'ONU pour un Nobel de la paix est souvent interprété comme un choix par défaut. Mais distinguer le système des Nations Unies au moment où l'administration Trump le court-circuite, voire s'en retire comme avec l'OMS, n'a rien d'anodin. En attribuant le prix Nobel de la paix au Programme Alimentaire Mondial, l'Institut norvégien récompense autant l'ONU qu'il dénonce les atteintes au multilatéralisme.
Jérémy Lange. Une situation ubuesque maintenant. Nous sommes en Israël. Les binationaux sont interdits par les autorités du pays de se rendre dans une autre destination. Depuis plusieurs mois, les Israéliens ont l'interdiction d'aller à l'étranger pour ne pas risquer de ramener le virus après le reconfinement instauré il y a maintenant 3 semaines. Les autorités ont encore durci la règle. Elles estiment que le passeport israélien l'emporte en fait sur l'autre passeport et donc que les binationaux n'ont plus le droit de quitter Israël sauf urgence, type naissance ou décès dans leur famille. La correspondance de Frédéric Mettezo.
Je me languis de ma famille en hébreu, réunifier les familles en anglais. Derrière ces mots-clés et des photos de famille postées sur Facebook, des dizaines de binationaux dénoncent cette mesure. Shana Orlik de Tel Aviv a lancé la campagne avec plusieurs amis.
C'est un peu du désespoir, du désarroi, c'est même pas de la colère. Ce besoin, en fait, de comprendre pourquoi en tant que Français, on n'a pas le droit de rentrer en France est devenu une évidence. Ça paraît totalement fou et ça l'est. Nous sommes bloqués.
L'ambassade de France a reçu beaucoup d'appels de la part de franco-israéliens déçus ou en colère, mais elle explique que la décision du gouvernement israélien est valide et que la France ne peut intervenir. On ne sait pas combien de temps va durer la mesure. Alors Laureline, dans son kibboutz sur la côte méditerranéenne, se languit de sa famille. Elle a posté une photo sur Facebook.
Sur la photo, donc, je suis devant le mur des Lamentations à Jérusalem avec ma sœur. Donc ma mère, elle m'a rendu visite en Israël l'année dernière, mais elle est venue toute seule. Et tout le reste de ma famille, c'est-à-dire mes grands-parents et ma sœur et mes oncles et tantes et tout le reste, je les ai pas vus depuis décembre 2018. Mon travail, il est ici, ma vie, elle est ici. Mais juste me dire que j'aimerais bien aller en France pour voir ma famille, c'est pas possible.
Même si la situation se débloquait, certains hésiteraient à partir car tout retour en Israël est suivi de 2 semaines d'une quarantaine absolue.
Frédéric Mettezo. Donald Trump, largement distancé par le démocrate Joe Biden dans les sondages, à 25 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis, il tente malgré tout de reprendre sa campagne à tout prix, une semaine seulement après avoir été hospitalisé pour avoir contracté le Covid-19. Alors ce soir, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, pose une question qui peut faire rire certains Américains, ou en tout cas qui peut interroger. Elle demande à ce qu'on s'intéresse de près à l'état mental et à la forme également de Donald Trump. La démocrate vient de présenter un projet de loi afin de créer une commission chargée d'enquêter sur les réelles capacités du président américain à gouverner ce grand pays. Le reportage de Benjamin Fontaine.
Pour appuyer ses propos en conférence de presse, Nancy Pelosi a fait imprimer en très grand format le 25e amendement de la Constitution américaine. Selon ce texte, le président cède les rênes du pouvoir à son vice-président s'il n'est plus apte à gouverner. Mais Nancy Pelosi veut aller plus loin, elle veut créer une commission capable de dire si, oui ou non, le président peut exercer son pouvoir en cas de maladie, par exemple. Mais elle l'assure, ce n'est pas contre le président actuel.
Il ne s'agit pas de Donald Trump. Il affrontera le jugement des électeurs. Nous voulons créer une procédure pour les prochains présidents. L'aptitude du président à gouverner doit être déterminée par la science et par des faits. Certains pensent que prendre certains médicaments peut affecter votre jugement. Je ne sais pas.
Cette commission pourrait être composée de 16 membres, 8 médecins et scientifiques choisis par des élus démocrates et des républicains. Les 8 autres membres seraient de hauts fonctionnaires capables d'assurer la continuité du pouvoir. La démarche de Nancy Pelosi a peu de chances d'aboutir avec un Sénat à majorité républicaine, mais ce que cherche avant tout la présidente de la Chambre des représentants, c'est peut-être de mettre la lumière sur l'état de santé de Donald Trump et pousser le président à être plus transparent.
18h17 sur France Culture, la cellule investigation de Radio France publie aujourd'hui sur franceculture.fr une enquête sur un club majeur de la natation française, Mulhouse. Une enquête qui s'intéresse aussi de très près à une famille incontournable dans cette discipline, la famille Horter. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Cécilia.
C'est vous qui avez réalisé cette enquête sur ce club qui est actuellement dans le viseur de la justice et vous avez découvert qu'il y avait de curieuses méthodes de gestion mais aussi des relations, des amitiés même particulières avec certains politiques en Alsace.
Le Mulhouse Olympique Natation, le MON, comme on dit là-bas, c'est une institution. C'est le club qui a formé la première championne du monde française, Roxane Amarasinéanu, l'actuelle ministre des Sports. C'est aussi un club qui a vu passer Yannick Agnel, Laure Manaudou, Amaury Leveau, les stars de la natation tricolore et qui est dirigé par une famille, les Horter, incontournable au bord des bassins, du père Laurent, créateur du club, à la mère qui a été vice-présidente de la fédération, et les deux fils, Lionel, l'un des meilleurs entraîneurs français, et Franck, l'actuel président du MON, du club, et qui est aussi l'équipementier de la fédération.
Une famille puissante donc dans ce milieu de la natation.
Oui, et une famille aussi avec des appuis politiques forts, des relations avec les collectivités locales qui lui ont permis de décrocher d'importants financements publics, ce qui est essentiel dans un sport comme la natation, très dépendant de l'argent public. Mais la question que l'on s'est posée, c'est est-ce que cet argent est toujours bien utilisé? Si on se l'est posé, c'est notamment parce qu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte en janvier et qui vise notamment la gestion du club.
Alors qu'avez-vous découvert?
Eh bien déjà que derrière l'armoire à trophées impressionnante, bien remplie, du club, il y a eu pas mal de conflits financiers avec des nageurs. Yannick Agnel a fait condamner le MON en juillet dernier à lui payer 60 000 euros. Le club n'avait pas versé sa dernière année de contrat. D'autres nageurs avant, Coralie Balmy, Amaury Leveau, Stéphane Rouault, avaient eu des différends financiers avec le MON ou parfois avec des sociétés de Franck Horter, son président. Et puis il y a aussi des parents qui estiment que le club leur doit de l'argent. Enfin, il y a un contexte assez lourd sur ce sujet.
Et alors la fédération, les collectivités qui financent ce club, elles sont informées de ce contexte ?
Alors, officiellement, non, mais bon, les financeurs publics ont néanmoins ignoré quelques alertes, et il y en a eu, de la Chambre régionale des comptes notamment, et puis elles font preuve parfois d'une étonnante légèreté. J'ai découvert par exemple que l'agglomération de Mulhouse, qui est la propriétaire du centre d'entraînement du club, oublie, entre guillemets, de facturer une partie des loyers à la société de la famille Horter qui exploite cette piscine, et des loyers qu'elle devrait payer. Théoriquement, j'ai également découvert une gestion parfois surprenante, où une partie de l'argent du club repart vers des sociétés appartenant à la famille Horter, où les assurances du Porsche Cayenne de l'entraîneur Lionel Horter sont payées par le club, où l'ancien président Laurent Horter, 87 ans, et sa femme partent aux frais du club 3 semaines en Thaïlande.
Et que vous répond le club alors ?
Alors le club nous assure que tout cela est régulier, que si par exemple les parents Horter partent en Thaïlande, c'est pour encadrer des stages ou que les assurances sont remboursées. Malgré tout, aujourd'hui, certaines collectivités se fâchent. La région Grand Est, notamment, vient de bloquer ses subventions au MON dans l'attente d'un audit sur ses comptes. Il y a l'enquête préliminaire dont on a parlé. Il y a aussi les parents d'une nageuse qui ont porté plainte pour escroquerie parce qu'ils n'ont pas touché une aide promise par le club. Enfin, il y a là tous les éléments d'une affaire qui peut ébranler de façon durable un monument de la natation française et créer une vraie crise politique à Mulhouse.
Sylvain Tronchet, merci à vous. Votre enquête est à retrouver sur le site franceculture.fr. Un mot sur la météo de demain. Le temps sera pluvieux dans les Pyrénées, des Pyrénées au Jura et à l'Auvergne jusqu'à la région Rhône-Alpes. Sur tout le reste du pays, le ciel va hésiter toute la journée entre des nuages, des éclaircies et des pluies éparses. C'est la fin de ce journal. Merci à Brice Garcia qui m'a aidé à le préparer.